éphémère, 89.1 MHz.
Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 7 janvier 2006. Il fait beau, il fait chaud, il fait pas cher, il y a du monde dans les magasins, c'est les soldes et vous écoutez la radio comme tous les samedis. FMR ouvre avec ses magazines, supplément week-end, BD, cinéma, DVD, télé et baston, suivi du cahier du sport avec un concours de steak haché cet après-midi. Et à partir de 15h du mix avec en mode progression, 16h Big Bang, 17h Vie d'Endure, 19h Happy Hour, 20h, alors là, je ne sais pas. Data, je suppose, 21h30, la CTRO Experience, suivi de Liquid Sky, et après, Breakbeat Experience, on vous explique, le tableau de menu a été effacé, donc là, c'est du live.
Voilà, de la mémoire. Oui, bravo, Xavier.
De l'impro, s'il te plaît. Oh, bien sûr.
Éphémère, vous n'aviez jamais écouté de radio.
Ouais, enfin, en tout cas, pas comme ça, ou en tout cas, jamais avec un réalisateur qui a pété ses lunettes. Enfin, non, pas pété. Enfin, bon, ceci dit, donc c'est supplément week-end qui commence avec un programme spécialement consacré. Et ben, je veux dire, dans la bande dessinée, c'est pas mal d'adolescents, vous allez voir. Mais il n'y aura pas que ça, puisqu'il y aura un petit top 5 cinéma, et puis on parlera aussi d'une série française qui essaie d'imiter les Américains. Excusez-moi, c'est un peu hardcore, voilà, zou. Et vous avez écouté en introduction un morceau qui était sorti en 2001 sur Sony Jazz, si je me trompe, de Herbie Hancock, The Essence. S'il vous plaît. Et là, en fond sonore, on vous passe une nouveauté. Gong Gong, Laughing with the Moon, c'est leur nouvel album. Le premier morceau, c'est Kawabata, c'est en fond sonore. Bah ouais, j'inaugure l'usage de la version numérisée de nos disques, tout en MP3. C'est pour faire chier sur la loi DADVSI. N'oubliez pas d'aller faire la signer la pétition. Vous tapez dans votre navigateur web EUCD.info, EUCD.info, et on vous explique tout pourquoi. Donc on vous demande pas seulement de signer bêtement, il s'agit aussi un peu de prendre conscience de ce qui se passe, notamment de ce qui se passe sur le plateau. Figurez-vous donc que je vais avoir un peu de mal aujourd'hui à faire mon émission pour une raison toute simple, c'est que mes lunettes ont été pétées effectivement hier. Nous avons inversé les rôles. Thomas était le producteur, le réalisateur. Et moi, j'étais donc devant la caméra pour une fois, et cette andouille, je sais pas comment il l'a fait, il a réussi à me péter mes lunettes. C'est pas sympa, c'est pas évident de faire une émission avec des lunettes de soleil, j'espère que tu en es conscient.
Oui, avec les scotch non plus, hein.
Oui, bon, bah, je vais remettre les scotch alors, dans ce cas, voilà. Mais je suis désolé, Thomas. En 15 ans d'émission, jamais, je dis bien jamais, il n'y a eu de lunettes pétées dans mes émissions. Jamais. Si, pardon, excuse-moi, une fois, et il y a prescription, c'était en 98. C'était moi et Bruce, et effectivement, il y a eu des lunettes pétées.
Il était encore vivant là.
Ouais, en plus, c'était les verres de Bruce. Donc, pour le coup, Thomas est puni, puisque Thomas va couvrir pour Radio FMR, donc il va quitter en plein milieu de l'émission, il va couvrir pour Radio FMR. Le troisième ou quatrième round de négociations sur le budget de la communauté européenne, où les Anglais refusent toujours de réduire leur chèque de ristourne, en période de solde, c'est un peu con. Et les Français, eh ben, la PAC sur les taureaux, c'est clair que ça se comprend un peu. Enfin, bon, on va en parler, je pense, vous allez entendre parler tout au long de cette émission, et c'est Thomas qui va ouvrir le bal. T'as toujours pas ouvert la bouche depuis tout à l'heure.
Pardon?
Ah, je me disais.
Non. Si, j'ai même pas dit bonjour en plus. Salut tout le monde. Alors moi j'étais parti pour faire un top 5 des films les plus attendus de 2006. Et comme j'ai préparé ma chronique à la dernière minute, je me suis aperçu que je pouvais pas faire un choix dans les de top 5 dans les tous les films qui vont être prévus.
Attends, tu l'as fait à la dernière minute? Moi je suis debout depuis 6h du matin.
Je suis debout depuis 6h du matin, tu m'as dit tout à l'heure depuis 8h parce que tu t'es bourré la gueule hier soir et que tu t'es bien mis au lit, il a fallu que tu te mettes un gros pied au cul pour te lever. Alors ça va, hein.
Bonjour l'émission. Ouais.
Du sport est parmi nous. Salut Duce. Salut. De quoi on va causer tout à l'heure?
Ouais, t'as commencé, je te signale qu'on est on va pas encore refaire la semaine qu'on vient de passer parce que moi ça m'intéresse pas personnellement, mais t'as dit qu'on était samedi 7, c'est pas vrai, hein.
Samedi 14, excuse-moi.
14 plutôt, ouais.
Excuse-moi, c'était le babillard de la semaine dernière, je me suis fait avoir. Mais oui, mais copié-collé avec un scotch en plein milieu de l'œil, c'est pas évident, voilà. Le top 5 de la semaine vous a été concocté par Thomas.
Voilà, alors en guise de top 5, ça c'est mon top 5, regardez.
Il appelle ça un top 5. Oh la touron, c'est un top 50 les amis.
Voilà, non, c'est juste pour dire, on va essayer de faire des classements parmi tous ces films qui nous excitent pas mal là. Alors on va essayer de passer sous silence des films dont on sait très bien qu'on va en parler à l'antenne, des films qu'on a déjà annoncés à ce micro là, et des films dont on parle à chaque fois qu'on a des news. Alors c'est juste pour signaler que encore une fois cette année on va avoir pour les blockbusters de l'été pas mal de films de super-héros. Xavier, on en parlait un peu avant l'antenne tout à l'heure. On sait déjà qu'il y a Superman Returns qui est annoncé le 12 juillet.
Ça, c'est Bryan Singer, non?
Voilà, exactement. Yes. Et avec Kevin Spacey dans le rôle de Lex Luthor, ça devrait le faire.
Ça devrait le faire. Et donc, le retour de la mode du slip bleu sur le collant en rouge.
Non, c'est l'inverse, Xavier. C'est le slip rouge sur le collant bleu.
Le collant bleu, ouais.
Voilà. Mais quelle honte!
Non. Et puis pour lui faire concurrence, sortira juste avant le 24 mai le troisième volet des X-Men. Et là justement, c'est Bryan Singer qui a abandonné cette franchise pour s'atteler à Superman.
Non, ça sort le même jour aux États-Unis.
Oui, mais en France, elle est sortie reportée. Moi j'ai les sorties France, alors peut-être que ça sort le même jour aux États-Unis.
D'accord, ok.
Et donc X-Men 3 verra l'apparition, j'ai vu une bande-annonce avec Angel. J'ai vu une image avec les ailes qui se déplient et tout. Alors, moi je connais pas du tout les X-Men, alors je pense que, en tout cas moi j'ai vu une image et ça le fait grave. Et ce sera réalisé par Brett Ratner qui avait fait les Rush Hour. Voilà. Mais aussi, on a pas que ça en super-héros, enfin en adaptation de comics,
rayon,
on va dire.
Super-héros.
Alors déjà, on a Ghost Rider avec Nicolas Cage.
Ouh.
Voilà.
Le retour quand même du mythe du motard.
Voilà. Et bon, alors là, c'est pas le super-héros, mais c'est quand même une adaptation de comics ou de graphic novel. C'est quand même V for Vendetta. Et là, on va essayer de pas trop en parler parce qu'on essaiera de faire une spéciale soit autour d'Alan Moore, soit autour de Al Moore en fait. Ça, c'est annoncé le 19 avril, alors qu'il n'y a pas de sortie pour l'instant, pas de date pour Ghost Rider. Et puis bon, ça appartient pas à la catégorie adaptation de comics ou de super-héros. Mais on va quand même le placer dans cette catégorie là. Il s'agit du nouveau film de John Woo, c'est Spy Hunter avec The Rock. Ouais, vous pouvez faire semblant comme si vous étiez intéressé quoi.
Ouais.
Merde. Bon, d'accord. Bon, alors sinon, parmi les autres films de super-héros, il y a aussi Mission Impossible 3.
Non.
Si. Bah oui, J.J. Abrams, créateur de Lost et d'Alias, qui réalise le film.
Ouais. C'est toujours avec Tom Cruise qui a la main mise.
Oui.
Sur le truc, donc c'est dégoûtant quoi.
Alors c'est marrant parce que dans le il y a un magazine dont je me suis appuyé dessus pour faire la chronique.
Et je croyais que tu t'étais sous
l'image de Mission Impossible 3. C'est une immense explosion. Voilà.
Ouais, en clair, c'est à chier quoi. Brûler le film, non, c'est pas ça.
On verra encore. Bon, alors sinon, parmi les films qui sont un peu différents, on va. Bon, j'ai déjà parlé de The Fountain, le nouveau film de Darren Aronofsky avec Hugh Jackman, qui promet, parce que apparemment c'est un film assez mystique qui se déroule sur un millier d'années. Pour l'instant, on comprend pas trop la bande-annonce, même si elle a un fort pouvoir attractif. Et alors, si vous allez sur le site,
à cause de Hugh Jackman, je suppose.
Non, parce que c'est tout blanc et puis qu'il y a, on voit juste des mecs avec des gros yeux et The Fountain à la fin. Donc ça a l'air intéressant. Et si vous allez sur le site officiel du film, ce que vous avez, c'est juste un économiseur d'écran à télécharger avec une espèce de d'énorme masse de magma avec de la musique derrière. Voilà, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Voilà. Et alors, on a aussi un petit diptyque provenant des studios Ghibli avec la sortie couplée de Pompoko. Qui annonçait déjà pour dans 4 jours.
Hein, qui a un Takahata qui date de 89, qui est très très beau. Franchement, allez-y avec vos gamins. Et surtout, ça n'a rien à voir avec le Takahata du tombeau des Lucioles, mais c'est un mélange de graphisme extrêmement réaliste. Et vraiment, Japanim, à la limite dessin animé des frères Fleischer. Ça vous rappelait le Bambi par moments, c'est assez étonnant, hein, vous allez voir.
Et un autre film de studio Ghibli qui a été réalisé il y a longtemps aussi, c'est Nausicaa. De Miyazaki.
Non, c'était pas Ghibli à l'époque. C'était avant qu'ils font de Ghibli. Ah,
une grosse connerie de ma part alors.
Nausicaa a été importé en France, a une carrière cinéma, a une carrière VHS. Mais le film a été recoupé de tous côtés. Alors ça s'appelait Zebra, Princesse des Étoiles, un truc qui avait rien à voir. Et ensuite ça a été coupé par les États-Unis parce que c'est un dessin animé, donc c'est pour les enfants, donc il faut pas que ça dure plus d'1h30.
Ah, oui.
Il manque énormément de choses. Donc c'est annoncé en France.
Oui, c'est annoncé en France pour le quatrième trimestre 2006. Et il faut annoncer pour, enfin, il faut rappeler pour les gens qui ne savent pas que c'est adapté par Miyazaki de sa propre manga. En
non,
fait.
C'est faux. La manga et le film, il l'a fait en même temps.
Bon.
Et il a continué la BD qui est traduite en France chez Glénat. Il l'a fait jusqu'en 87 alors que le film était sorti en 84.
Faut plus que je parle de Ghibli avec Xavier, ça c'est clair.
Attends, c'est superbe. Franchement, Nausicaa, c'est une super bonne nouvelle. Tout le monde l'attendait, mais depuis une décennie, quoi. Il faut le dire.
Ensuite, on sait qu'il y a une date qui a été fixée, mais à mon avis, vu les échos qu'on a eu dessus et les mésaventures de l'acteur principal, je pense que la date du 16 août va être largement explosée. Il s'agit de Miami Vice, la source ciné de la série. Parce que avec tous les problèmes de drogue qu'a Colin Farrell et le tournage qui a été reporté, à mon avis, ça va pas le faire.
réalisé par date. Michael Mann quand même.
Hein. Oui, l'homme qui n'a jamais fait de boost de sa vie, quand même.
Et c'est suffisamment rare pour être signalé.
Voilà. Donc c'est juste pour le gimmick parce qu'on va essayer de faire un jingle autour de ça. On va juste mentionner encore la sortie de Silent Hill le 26 avril. Je pense que ça doit être la 5e ou 6e fois qu'on en parle. Et alors
là ça a l'air pour de bon hein, quand même. Hein.
Ah oui, 26 Scoola. Avril ça c'est ouais. Avec Radha Mitchell, Sean Bean, Lauren Hill je crois qu'il s'appelle.
Et Nintendo Revolution normalement.
Hein?
Non, pardon.
Comment? Et on va aussi mentionner les nouveaux Martin Scorsese, les nouveaux Almodovar, et voilà, et bon, que du bon en tout cas. Un nouveau film de Chen Kai-gae qui avait fait Adieu ma concubine et qui s'engouffre un peu dans la vague du film de Wu Xiapan dans lequel c'était engouffré. Comment il s'appelle l'autre, la Zhang Yimou avec le secret des poignards volants et Hero.
Hero, ouais.
Et alors l'autre il dit si lui il le fait pourquoi pas moi après tout.
Ah ouais merde.
Voilà. Et bon alors là on n'osait plus y penser, on n'osait plus l'espérer et là c'est annoncé pour 2006. Alors j'essaie de retrouver la date. C'est prévu pour le 10 mars. Basic Instinct 2 Risk Addiction. Bon d'accord, c'était okay.
Avec Sharon Stone.
Avec toujours Sharon Stone, Cronenberg avait été annoncé à un moment donné, mais bon, il a quitté le projet pour divergence artistique. Ce sera réalisé par Michael.
Oh la pudibonderie du terme. Voilà. Pour divergence artistique.
C'est finalement Michael Caton Jones qui réalisera le film et il est donc annoncé pour le 10 mars. Et puis voilà. Et puis ah oui, du sport, on en parlait la dernière fois. L'adaptation d'un bouquin de James Ellroy par
le Brian De Palma. Voilà.
Et qui interprétera le rôle de la fille découpée? Scarlett Johansson.
Ouais.
Un morceau de choix, c'est le cas de le dire. C'est du premier choix. Hein. Mais
Scarlett Johansson, elle est blonde, non?
Oui.
Elizabeth Short, elle est brune.
Et ouais, mais...
Va comprendre.
Et deux petites news pour finir, un nouveau film autour de Hannibal Lecter, ça s'appelle Young Hannibal Beyond the Mask, et dans le rôle de Hannibal, et ben c'est un petit français, c'est Gaspard Ulliel, qui a interprété le rôle de Manek, notamment dans En Dimanche de Fiançailles, c'est lui qui tiendra le rôle de Hannibal jeune.
Ça va pas améliorer les réputations des Français aux États-Unis.
Ah non, et le nouveau, moi je sais que je l'aime bien, enfin... J'aime bien le réalisateur et c'est vrai qu'il a fait sa carrière en ce moment, elle est un peu déclinante parce que le dernier film qu'il avait livré n'était pas très convaincant. Il s'agit du nouveau film de M. Night Shyamalan qui a fait Sixième Sens, Incassable, Signe et Le Village, et ça s'appelle Lady in the Water et c'est annoncé pour le 23 août avec toujours Bryce Dallas Howard, l'actrice de justement du Village, et Paul Giamatti. Et je vais vous retrouver le pitch parce que justement il a l'air assez intéressant. Ah mais mince, j'ai trouvé la mauvaise page. Bon c'est pas grave, en fait il s'aperçoit qu'il y a une sirène dans sa piscine et il s'aperçoit qu'elle est issue d'un conte, et au fil de l'histoire il s'aperçoit qu'il est également à l'intérieur du conte, et ça, je pense que ça va le faire.
On attendra ça avec impatience.
Voilà, c'était le top 50 des films les plus attendus de 2006.
Midi 20 sur la poubelle radio, vous écoutez Supplément Week-end de Radio FMR, et Thomas donc tout à l'heure nous quitte puisqu'il nous racontera la semaine prochaine s'il y a émission, et bien donc le tournoi Torin avec des étalons anglais. C'était nul. Après une toute petite pause musicale, on va entamer la BD, juste le temps de se caler. Une spéciale ado dans les bandes dessinées cette semaine, c'est comme ça. On va commencer avec une BD, je dirais, c'est une manga, une manga pour ados acnéiques qui cherchent l'amour, etc. C'est dans la collection Taifu 80 et c'est donc édité par Taifu Comics. Il s'agit d'une BD de Taketo Higen pour le scénario et Teseiji pour le dessin avec Karine. Le premier numéro, on l'a entre les mains. Le deuxième numéro est sorti cette semaine en librairie. Désolé, on s'est fait un peu avoir. Thomas, tu fais le pitch ou c'est moi qui le fais?
Ouais, je vais essayer de... Parce qu'il y a du sport qui me l'a piqué, là, j'essaie que...
Bon, alors je le fais moi puisque je l'ai écrit.
Toi, tu vas compléter après.
Okay.
Donc du sport, tu vois, c'est l'histoire d'un jeune garçon puceau, qui a jamais connu une fille, et il est amoureux d'une collègue de sa classe en fait. Et il se trouve que cette collègue, elle a un frère jumeau qui est super fort en sport, c'est le beau gosse du lycée, tu vois, il y a toutes les filles qui s'enfolent de lui. Et en fait, il va parler à la déléguée de la classe, une brune, qui a lunettes, qui est pas mal foutue non plus. Et elle va lui dire, t'aimerais bien l'approcher à la fille que t'aimes bien. Hein.
Alors une petite interruption vis-à-vis des personnages. Donc, le Junpei, c'est le lycéen platonique. Karine, c'est la fille en question. Le frère, donc, c'est Kido. Et donc, la troisième, c'est Ishino.
Mais
ils se connaissent depuis la maternelle.
Oui, mais on s'en fout parce qu'on va pas lire la manga pour les
Ishino,
prénoms.
Ishino, voilà.
Voilà. Et il se trouve qu'en fait, il va tomber sous le joug d'une espèce de démon. C'est la fille, la déléguée de la classe, qui va lui proposer un marché de dupes. Il va échanger son corps avec le frère jumeau de la fille. Et sauf que le mec qui a voulu ce deal, c'est pas lui. C'est le frère jumeau qui veut passer à la casserole sa propre sœur. et pour passer le marché, en fait, il y a le héros qui va devoir lécher une mystérieuse onction qui va débouler du corps nu de la déléguée de la classe.
Non, 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 arrêtez. Ah, couchez les filles. Allez, hop. Oh, mais... Oui, donc passer à la casserole, tu disais, oui. Bon.
Non, c'est bon.
Oui, oui, bon, on va
essayer. Je crois qu'on a compris. Hein.
Bon, je crois qu'on va arrêter dans le scabre. Enfin, bon, moi personnellement, je croyais tomber sur une petite bluette avec une pointe de fantastique, genre vidéo girl like.
Ouais, parce que bon, quand tu prends le bouquin, bon, déjà, les petites filles, petites culottes, bon, ça va. Ils se connaissent tous les quatre depuis leur putain d'enfance.
Ah oui.
Suite à certains événements. Une romance d'une émotion rare, une histoire incroyable.
Ah oui, alors là, pour
la quatrième ouverture jusqu'à la fin.
Lorsque nous sommes tous allés pique-niquer, Karine m'a offert une boulette de riz vraiment très grosse. Je suis très content.
C'est à hurler de rire. C'est vrai
terrible.
Que les mecs de Taifu, ils sont pleurés de rire, à mon avis, à la faire cette quatrième de couve. Moi, je pensais vraiment tomber sur un truc sentimental, genre vidéo girl AI, faussement pour les filles, mais en fait, pour les garçons. Je me suis retrouvé dans les histoires d'amour contre nature. Non, c'est vraiment poilant, hein. Y a pas, c'est le cas de le dire, hein. Le mec, il se retrouve amateur parce que c'est un amateur d'astronomie. Il a pointé un jour un peu trop bas sa lunette. la bonne excuse. Et d'un autre côté, on a un petit malaise par rapport au héros face au dilemme. Coucher en étant physiquement son frère, ou laisser son corps physique couché alors que c'est le frère, c'est plutôt rare. Hein. Je veux dire, des histoires d'inceste. Moi, dans ma collection de BD, je dois en avoir pas beaucoup. Je dois en avoir une, c'est dans une BD italienne qui s'appelle Les Petites Vicieuses, qui est sortie il y a longtemps, en 97, du sport et rigole, mais je crois qu'il la connaît, la BD en question. C'est-à-dire, c'est plutôt rarissime. En même temps, c'est plutôt rafraîchissant parce qu'on a donc l'amour platonique, le garçon qui n'ose pas aller voir la fille en question. Et d'un autre côté, il se rend compte que cette fille, elle a une super vie, etc. Elle a un super frère, mais son frère commence à lui taper sérieusement sur les nerfs. Il n'y a pas d'autre terme. En plus, il est ni plus ni moins que le caïd du quartier. Assez étonnant. Et en même temps, c'est une fille, elle connaît pas grand chose à la vie. Elle a deux gros pompons, elle fait nunuche. Il n'y a pas d'autre terme. Et c'est vrai, c'est.
Enfin, mais c'est ça qui fait bander les Japonais, justement.
Alors là, mon cher ami, tu t'engages et je te prierai de faire très attention à ce que tu dis quand même.
Certains Japonais,
ouais. On est diffusé sur le net, je te rappelle. Et il y en a qui pourraient aller très loin. Alors attention quand même aux généralisations. Hein.
Si vous êtes offusqué de nos propos, vous pouvez toujours appeler au 05 61 580 580.
N'envoyez pas les Yakuza tout de suite.
Takesho Higen, Teseiji, avec Karine, donc le premier tome est dispo, le deuxième vient de sortir, c'est dans la collection Taifu 80, c'est chez Taifu Comics en France. <t'-> j'adore ce format. Alors là, le problème, c'est la suite. Voilà, hop, je suis obligé de zapper comme ça. Claire Bretéchet, vous la connaissez, on en a parlé avec sa moquerie de la génération post-68 paumée dans ses idées avec les frustrés. Eh ben, Claire Bretéchet s'était attaquée par la suite à leurs enfants perdus dans leur basket. C'est Agrippine. Et il se trouve donc qu'il y a une réédition de Agrippine, le premier tome, et Agrippine prend vapeur dans la collection Librio chez J'ai lu. Le prix, ce qui est intéressant, c'est que c'est une collection low cost. Ça veut dire tout simplement que chaque bouquin va vous coûter 2 euros. Ça se glisse facilement. Ah, la Librio, justement, ça se glisse pas facilement dans la poche. Mais bon, je vais dire, c'est un truc qu'on peut garder dans la boîte à gants et tout. Style, je le lis dans un feu rouge, etc. L'histoire de l'insupportable Agrippine, eh ben, c'est celle d'un père universitaire, d'une mère avenante, d'un frérot enfant roi, et elle, juste larguée de tout. Elle est matérialiste, hédoniste, elle tente de se donner un genre en parlant tout le temps, tu vois, vers l'an. Bon, de nos jours, c'est le langage SMS, mais c'est moins facile à retranscrire. Elle est jamais contente de rien, c'est une vraie chieuse. Agrippine, c'est le résultat de l'éducation style Françoise Dolto, vous savez, hein, celle qui a eu pour fils Carlos. Non, je parle du chanteur, pas du terroriste, quoique. Par des parents bobos, bourgeois bohèmes. C'est une lycéenne, en fait, une chieuse, hein, qui croit que tout lui est dû, renvoie aux orties de la bourgeoisie dont elle est pourtant fière d'appartenir, boudeuse, tête à claque, râleuse perpétuelle. Bon, Agrippine, c'est tout un poème. Elle est aimable comme un gardien de prison. Elle est vulgaire, je parle des fringues, hein, comme Laurie. On s'attache pourtant énormément à elle. Enfin, pas pour l'adopter, juste pour parler de la vacuité d'esprit. Bon, alors... Malheureusement, la réédition dans la collection Les Brios souffre des mêmes défauts que Les Frustrés dont j'ai parlé le mois dernier. C'est trop petit et c'est un myope qui vous dit ça, et je vous dis, j'ai dû retirer les lunettes pour m'approcher sérieusement pour pouvoir lire tranquillement. Mais alors, vraiment trop petit. Surtout que Claire Bretéchet remplit ses bulles en écriture cursive, c'est-à-dire c'est écrit à la main, ça n'aide pas vraiment à la lisibilité. Mais comme Agrippine était publiée en couleur dans le Nouvel Observateur, on y ajoute les défauts du tramageant gris, un poil grossier. Alors, il faut vraiment être le nez sur le texte pour le lire. Enfin, bon, c'est dommage. Claire Bretéchet, Agrippine, tome 1 et tome 2. C'est dans la collection Librio chez J'ai lu. Ce qui est agréable avec Thomas, c'est qu'il est en train de lire les cahiers du foot que vient lui passer du sport, qui est en train de consciencieusement se couper les ongles.
Ouais, ouais. Un cahier de foot spécial Olympique de Marseille.
L'OM a-t-il un avenir ?
Ouais. Et alors bon, assez complet quand même. Il y a l'interview de Pape Diouf qui est vraiment très très intéressante, hein, vraiment. Hein, c'est pas mal. Et il y a quand tu tournes vers la fin, je crois, pas la dernière page. L'avant-dernière page, il y a la petite bulle là qui est excellente, hein, les bienfaits de la colonisation avec une victoire en Coupe du Monde en 98 et en Championnat d'Europe en 2000. Et tu vois que des blagues sur le terrain et tout, quoi. Enfin bon, c'est vraiment très très bien, excellent. Et il y a également, attends, tu peux tourner encore la dernière. Et la dernière, c'est la page où il y a le truc d'abonnement pour s'abonner et tout ça. Ouais. Et il y a toujours les répliques, tu sais quoi, accroche et tout quoi, tu sais.
Dans tous les mauvais.
Et celle-là, c'est des vrais pour une fois. D'habitude, ils en foutent toujours des fausses et tout, enfin des grosses vannes.
Ah,
c'est
des vrais.
Ouais.
Ah merde.
Parce que fanzine de merde, je l'ai bien lu dans SoFoot, hein, y a pas de problème. Pour celle-là, y a pas de problème.
Non, mais les cahiers du foot, c'est le seul journal qui a réussi à me réconcilier avec le football, donc ça tombe bien. Ceci dit, il est midi 29 minutes et 53 secondes sur l'horloge atomique de Radio FMR. La régie finale me demande de passer la pub. Petite salutation à nos copains les requins marteaux qui, sur le site web du festival de la bande dessinée d'Angoulême d'ailleurs, à ce qui paraît, on fait un faux documentaire qui sera projeté à Angoulême, donc ça on verra ça dans 15 jours.
Ben on vous en parlera, tiens.
Dans 3 semaines. Voilà, et Thomas, donc on va un peu se presser puisque Thomas doit partir, puisque bien Thomas va donc assister au retour sur le terrain de Fabien Ibanez.
Thank you. Ouais. Et je voulais juste signaler l'apparition d'un tome 6 de Saint Seiya. Et parce que je sais qu'on en parle à chaque fois, mais non, mais juste signaler, voilà, voilà. Bon, bref,
le tome 6.
T'as loupé ton sketch.
Pourquoi?
T'étais censé faire toute une intro.
Mais oui, mais attends, je vais faire l'intro. Voilà, si vous voulez, ben, de toute façon, il faut pas aller voir cette. Il s'agit d'une nouvelle série autour de Saint Seiya, toujours scénarisée par Masami Kurumada et dessinée cette fois par Megumu Okada par rapport à l'ancienne série animée qu'on connaissait chez le Club Dorothée. Et là, ça se passe avant la série qu'on connaissait. Et alors, il faut pas lire la manga pour voir de la nouveauté, donc ça c'est mort. Pour avoir du scénario non plus, Gary surgit de nulle part, c'est très facile. Hein. Il faut pas y aller non plus pour le découpage et puis pour des ambiances un peu, très sobres, ni rien. Ça c'est mort aussi. Il faut surtout y aller pour les magnifiques dizaines de pages qui commencent chaque tome, ce qui est proche de la colorisation des BD chinoises, et pour l'extrême richesse des cases qui sont à l'intérieur des voix. Vous prenez vraiment la tête pendant 10 minutes pour savoir où est le pied, où est la main. Le mec, il est vraiment doué pour avoir des cases surchargées, puis c'est vraiment ça qui fait le charme de cette série. Vous êtes en admiration devant les effets métal et tout. Alors peut-être que c'est fait sous Photoshop, mais en tout cas le mec il s'est tâté, voilà. Donc c'est le tome 6 de Saint Seiya, et puis voilà, c'est répétitif, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais bon voilà, c'est ça, ça a quand même quelques qualités.
Bon ben moi je suis un peu loupé dans ma prog musicale, hein, du coup, qui est bien entamée. Puisqu'on va parler de Moebius, s'il vous plaît.
Que j'ai lu la BD cette semaine.
Puisque je l'ai reçu en décembre dernier, et toi tu m'as dit non, chronique pas de suite, je veux le lire, et moi.
Oui, parce que moi on me l'a offert à Noël, monsieur, moi.
Ouais, bah moi c'est l'attaché de presse de Casterman qui me l'a offert, de Dargo, excusez-moi. Hélène, je suis désolé, Hélène, ça ne me reprendra plus. Donc voilà, scénario de Moebius assisté de Jean Anesté sur un dessin, s'il vous plaît, de Jiro Taniguchi, qui n'est pas rien, puisque c'est l'auteur qui est actuellement super en vogue en France, ouais. Journal de mon père, on le connaît énormément pour ses bandes dessinées intimistes et le passé.
On va dire là, c'est du futur. De mon modeste point de vue de non amateur du tout de bande, enfin qui est pas connaisseur de bandes dessinées, je pense que c'est un mec qui contribue à la renouvellement de l'image du manga, de la manga en France, qui fait un peu oublier les japonaiseries, tu sais, les gens,
sexe et violence. Chevalier du Zodiac. Hein.
Voilà, exactement. Allez, fais ta chronique.
Bon, Icar, c'est le mutant parfait. Celui qui ressemble à l'être humain, si ce n'est qu'il vole par la simple pensée. De fait, à sa naissance, toute trace de lui, hôpital, famille, fut consciencieusement gommée, effacée. Il est devenu un projet militaire archi-top secret. Comprendre comment il fait pour accomplir ce prodige, celui de voler. Icar a 20 ans, vit dans une immense serre, tel un oiseau en cage qui n'a jamais connu le monde extérieur. Un sujet d'étude que les militaires aimeraient bien reproduire après d'incessants échecs. Mais Icar a des poussées d'hormones, bah oui, hein, période pubère, qu'est-ce que vous voulez, c'est un spécial pubère pour la BD. Et surtout pour une des biologistes, Yukiko, qui elle n'est pas indifférente à lui, y voyant l'homme par-delà le mutant. C'est encore un des multiples projets que Jean Giraud, alias Moebius, laissait en plan depuis un bail, faute de temps, puisqu'il en parlait quand même, il en parlait en 97. Vu le nombre faramineux de séries dans lesquelles lui ou une de ses multiples personnalités sont impliquées. Moebius, Gire. Ouais, bon, ouais. Hein, on les compte de multiples. La comparaison avec Akira est forcément évidente, d'autant plus que le dessin animé Akira l'avait énormément marqué, puisque c'est lui qui avait poussé à mort pour qu'il sorte en France et qu'enfin le manga décolle.
Et non seulement il avait marqué, mais c'était Moebius qui avait aussi inspiré Otomo. Hein.
Exactement, hein, là-dessus on ne peut pas le nier. Ça, on le découvre, ce que l'on découvre dans l'interview à la fin que Moebius a accordé à Numa Sadoul, c'est que l'adaptation de Jiro Taniguchi est une édulcoration de son projet de base. notamment le cap de la puberté, de la sexualité, qui avait un énorme intérêt dans l'histoire. Mais bon, cela reste un livre de toute beauté absolument superbe.
Moi, si je peux me permettre, j'ai halluciné du sport. Je pense que tu vas le taxer. Lis surtout.
Ouais, justement, je suis en train de me dire, bon, bah, quand est-ce qu'ils vont avoir des BD que je puisse taxer, là, quoi. Là, c'est bon. Là.
Tu vas voir à la fin de l'édition là, tu vas halluciner quand tu vas voir l'interview de Moebius, quand tu penses que ça aurait pu être cette BD. Il est question de actrices porno qui mangent leurs propres excréments et tout. C'est ça que je voulais faire. Il y a Moebius qui dit dans l'interview. Quand tu vois la BD, ah ouais, ça a rien à voir.
C'est, enfin, en tout cas, moi, le graphisme qui n'a rien à voir avec un graphisme manga, hein, en tout cas, enfin, pas tel qu'on le connaît en français, alors rythmique manga, mais sur les décors, c'est absolument super. On a vraiment l'impression d'avoir un Giro au dessin, hein, c'est un Moebius au dessin.
Bon, c'est toujours assez épuré, hein, de toute façon, généralement, oui. Hein, oui. Quand c'est Moebius, quoi. C'est toujours des trucs grandioses. Ok, hein, ça a l'air vraiment bien, quoi. Enfin, au niveau du dessin, quoi. Et
sinon, Xavier, qu'est-ce que t'en as pensé personnellement de le point de vue juste qualité de un manga?
Moi, c'est vrai que j'ai énormément retrouvé Stan et Elle, qui est une vieille BD que Moebius avait fait au départ. C'est un projet commercial pour Citroën, qui est devenu une bande dessinée par la suite et même un cycle. Et c'est un peu ça, c'est le côté épuré, le côté haute autorité qui crée un univers complètement aseptisé, asexué, etc. Et d'un autre côté, il y a vraiment la poésie de l'univers. On retrouve d'ailleurs pas mal. Jiro Taniguchi m'a beaucoup fait penser aux cités d'Urbicand de Peter Siskoton. Donc c'est vrai qu'on a vraiment le mélange bande dessinée européenne, bande dessinée japonaise. C'est très très agréable à lire, mais d'un autre côté, quand on est habitué à du Moebius, justement, on sent qu'il manque quelque chose, c'est l'apparition de la sexualité. Mmh. Et
Elle y est quand même un peu, parce que c'est dessiné quand même par un japonais, puis on voit les poils pubiens, donc ça c'est assez nouveau.
Faut dire qu'au Japon, c'est justement la chose qu'ils ne peuvent pas dessiner, voilà. C'est les poils pubiens. À noter que c'est une bande dessinée qui a été publiée chez Kodansha, qui est le deuxième éditeur japonais, bien avant leur arrivée en France. Donc c'est pas un projet qui a été spécifiquement prévu pour la France, mais au départ c'était bien dans le cadre des échanges qu'avaient les Japonais au bout d'un moment avec des dessinateurs français, plutôt underground, que cela soit Edmond Baudouin, que cela soit Farid Boudjelal. Quoique Moebius, on peut pas parler ça de franchement underground, hein, mais... Mais bon, ça fait partie justement des crossovers qui ont été extrêmement intéressants, qui sont sortis à ce moment-là, et c'est vraiment agréable.
Et sinon, moi, avant d'aller voir du combat de Stakaché, je voulais juste te dire que moi, j'ai trouvé le scénario un petit peu convenu, et quand tu as compris la mécanique de l'histoire, passer le premier quart, tu sais très bien comment ça va finir, et moi, j'étais un peu déçu de ce côté-là, mais sinon, il y a vraiment quelques planches qui valent le détour.
Thomas s'apprête à quitter le casque pour une raison toute simple, c'est qu'il va voir le retour d'un mutant qui s'appelle non pas Wolverine mais Fabien Pelousse. Puisqu'il s'agit du match du sommet au duel Stade Toulousain versus les Wasps de Londres. Et du sport, je suis en train de griller au fur et à mesure sur ton heure. C'est bien dommage parce que toi, je suis sûr que t'en aurais.
Non, t'en fais pas, c'est cool.
Enfin, nous, on va pas se jouer les miches dans le stadium.
Oui, ça va. Il fait beau quand même, il pleut pas, il fait pas froid, il y a du soleil.
Du soleil. Ah oui, pardon, excusez-moi, oui, bon, ça, effectivement.
Mais le stadium, il y a des places où il faut se mettre quand il y a du vent, quoi. Faut prévoir le coup à l'avance. Sinon, généralement, comme c'est un stade, comme ça, fermé, enfin, relativement bien fermé, c'est vrai que le vent, il n'y a pas partout, quoi, quand il y a du vent, quoi, tu vois. Donc, si t'es bien placé, il n'y a pas de problème, quoi.
On va terminer sur les bandes dessinées avec Nyx de Joe Quesada et Joshua Middleton au dessin. Nyx, donc, il s'agit d'une série qui sera en deux tomes. Ça sort en France chez Marvel Graphic Novel, Marvel France, alias Panini. Tiens, encore des histoires d'images découpées de collections de super-héros footballeurs. Pardon, excusez-moi. Digression, hein, une fois de plus. On va pas y revenir, mais bon, vous avez pu revoir sur TF1 le film qui en dit beaucoup trop sur l'univers, alias X-Men. Donc vous savez que l'Institut pour enfants surdoués du professeur Charles Xavier abrite en fait une école de mutants qui se trouve être les X-Men. Mais les ados qui découvrent leurs pouvoirs mutants ne sont pas forcément trouvés, on n'intègre pas forcément l'école X-Men. Des fois ils restent dans la rue, et c'est l'histoire de l'une d'entre eux. À 8 ans, Kaiden a vu son père, Flick, mourir sous ses yeux par une bastos envoyée par un gang Chicano comme ça, au hasard. Depuis, le quartier est devenu de moins en moins en moins sûr, de plus en plus la zone. Sa mère est débordée par ses 4 enfants, le grand frère qui renvend un peu de poudre pour mettre du beurre sur les épinards. Kaiden qui chippe un peu à gauche à droite, ne serait-ce que pour se payer ses clopes, et les gangs omniprésents. Bon, sur la maquette, on est dans une bande dessinée construite comme une BD franco-belge. Dans le rythme, dans la mise en page, graphiquement, on a l'impression d'avoir une manga hongkongaise, c'est-à-dire c'est un dessin qui est très manga, mais avec un travail sur les couleurs, les lumières, parfois des flous. D'ailleurs, on a vraiment l'impression de plans, comme si nous avions des images de dessins animés. Bref, on est à milieu des poncifs habituels des BD de super-héros. Pourtant, l'univers de Kaiden nous ramène immédiatement aux USA. La faillite de la politique sociale dans les quartiers défavorisés, les gangs, les détecteurs d'armes à l'entrée du lycée, les gangs infiltrés dans la police, les armes qui circulent dans la cour, les gangs partout, même chez les gamins. Alors, le jour où Kaiden se fonde dangereusement face à Hector, qui est justement membre d'un gang chicano, eh ben, il faudra un miracle pour qu'elle s'en sorte. Un pouvoir mutant qui se révèle, par exemple. C'est réellement rafraîchissant, son pouvoir spécial n'a rien de spectaculaire, la vision des quartiers difficiles, downtown, car ce n'est pas dans les banlieues, ce n'est pas les banlieues qui sont un problème aux États-Unis, mais plutôt les centres-villes, celui de New York, celui de Los Angeles, celui de Washington, à 200 mètres de la Maison Blanche, c'est des tirs de flingue, hein, la nuit, ou encore, eh ben, Detroit, ou Chicago. Et pourtant, on a des touches très subtiles qui nous rappellent que nous sommes dans un univers de, particulier, l'univers de Marvel. Mais Joe Quesada est un scénariste mondialement reconnu qui justement a décidé de ne pas saper les préjugés sur la bande dessinée de super-héros. Un peu trop tard pour faire comme Frank Miller et de le renouveler, mais il nous livre ici une série très étonnante de créativité et qui vaut vraiment, à mon sens, le coup d'œil si vous êtes fan de super-héros, vous allez vous prendre une claque parce que c'est une revisitation absolument extraordinaire. Joe Quesada au scénario, Joshua Middleton à ce dessin qui est très particulier, très manga, hein, très animation, je dirais, japanime. Nyx, tome 1 sur 2, c'est chez Marvel Graphic Novel, c'est dans la collection Marvel Graphic Novel, chez Marvel France Panini Comics. Thomas est en train de se rhabiller, il n'a pas eu le temps de lire la BD, mais je sais que celle-là... pardon, vas-y.
Je disais, je t'en ai taxé pas mal déjà et je vais la laisser à du sport celle-là.
Oui. C'est sympa, merci de penser aux autres. Thomas donc va nous quitter 12h43 minutes sur la poubelle des radios. Vous écoutez Supplément Week-end. Et pour niquer les systèmes de protection contre la copie, on vous montre ce qui se vend des fois dans les supermarchés à Mexico. C'est des CD piratés, mais la copie est restée dessus. C'est un peu con, mais vous allez voir. C'est pour toi, Adus.
Neo MX, ¿qué pasó, canijos? Hey, escuchen esto. Ajá, ¿qué hubo? ¿Cómo está? Ya estuvo, empieza la función M-I-L-I-O-Q. Sin alborotos, por favor, hay suficiente espacio. Entrada restringida para chicas palacio. Prefiero la compañía de féminas rudas. Atuendo variable, pero cuando tarde se aparecen semidesnudas. Lo dije una vez, nada se me escapa y no me voy hasta notar el paquete completo, papa. Resalto mi país en el mapa, espada y capa. Lo defiendo acompañado, solapa, nadie me atrapa. Soy salvaje, sin traje, sin uniforme. La ciudad más grande, la urbe más enorme. Sé muy bien que si me absorbe, ya no me levanto. Por ello ando al tiro, aparte no sirvo de santo. Aunque no me espanto de ver a quienes venden su ser. Por lo que sea, con quien sea, hombre o mujer. Urbano hasta la madre, compadre, ahora lo sabes. Que se escuche como Malcolm X y César Chávez. Siempre ha habido quien ha querido cambiar mi imagen, pero prefiero la soledad y vivir al margen. Mi rap es sangre, sudor y sentido del humor. Espontáneo, atraviesa el cráneo, soy un tumor. Me propago como un rumor, deshago con furor. La costumbre pendeja que de la cumbre se aleja. En un país donde cualquiera que sube por envidia a los demás le bajan el volumen. Y en resumen, se concluye que el sentido común es de los menos comunes. Aún así mi yo que fluye entre el cardumen de pirañas. Estoy con mi caña, si no lo sienten hoy, lo sentirán mañana. Y quienes me consideraron nada recibirán una carcajada. Tengo un plan y ni ellos ni la chingada me detendrán. pero no todo es tan serio. También me gusta el relajo, bajos pulsantes en el estéreo. Nada de calmantes, que nos pegue como debe, hasta donde se pueda, que se nos eleve y nada leve. Mi gente apoya como de la olla en islos. Un brindis con copas, oigan, saquen el pisto. Y por supuesto no resisto, un poquito de así es yo. Y de nuevo estoy listo. Nos hace falta un himno.
Milokyu con DJ Freak. Enfin, non, ils parlent largement mieux anglais, les Mexicains, c'est assez effarant d'ailleurs, ils sont pratiquement tous bilingues. Milokyu con DJ Freak, Cubo, voilà, extrait de l'album Neo MX, qui est sur une compil donc de hip-hop mexicain. Hein, bon, la musique de fond fait un peu midi, mais bon, ils savent parler. La compil, c'est Hip-Hop Hecho en México. Le hip-hop aujourd'hui au Mexique. Et n'essayez pas de le chercher dans les supermarchés ou quoi que ce soit. Et je peux vous dire, bah, on m'avait passé une version en contrebande de ce disque, c'est-à-dire gravé, je vous jure. Acheté dans les échoppes, ça c'est du piratage, ça c'est du vrai piratage. C'est pas du piratage que veut nous faire croire les majors, celui de papa-maman. Non, pas du tout. Et voilà, mais en tout cas, bon, je pense que du sport va le passer de temps à autre. Malheureusement, c'est protégé contre la copie.
Ouais, t'as qu'à me prêter le disque.
Je te prête les trois. Attends.
Zoom. Ah bah ouais, tant qu'à faire.
Et zoom, je te le remets en place. Et je remercie ma petite sœur Camille qui me les a offerts. Donc voilà, petite ambiance soft, jazzy et en même temps très sombre. C'est pas pour rien. Vous n'avez pas la couleur, donc vous voyez pas du sport qui est en train d'osciller de la tête. Oh ouais, bon, ça se laisse découvrir, on va dire. On va commencer la partie télévision avec la part de marché de TF1 sur la diffusion jeudi soir de RIS,
ouais.
Les experts à la française.
Ouais.
Alors attention, ne rigolez pas, 40% de part d'audience pour le premier épisode à 20h45. Et le même soir, M6 se faisait doubler par Arte au sens propre comme au figuré, puisque Arte a fait 8% d'audience pour Vertige, si je me trompe.
Vertigo.
Et M6 passait 5 jours
pour survivre.
Un téléfilm de merde, 4% d'audience.
Pas forcément de merde, hein, mais bon, téléfilm américain.
Diffusé, multidiffusé. Manque de bol, c'était une première diffusion pour celui-ci. Et voilà, donc pan sur les doigts. Et TF1, carton monstrueux. Autour de RIS. Alors je voulais avoir un direct téléphonique avec un expert, les experts. Il a refusé, il a pas voulu. Je le traînerai par la peau du cou s'il le faudrait.
Ouais, cool d'avoir son avis comme ça, il a l'habitude de regarder les experts et tout.
Ah mais lui plus... c'est plus que l'habitude.
Il aura encore plus l'esprit de comparaison entre les deux séries. Bon, c'est vrai que c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière, hein. C'est un petit peu du copier-coller en ce qui concerne l'ensemble de l'intrigue, hein. Y a quelques nouveautés intéressantes. Il y a les images qui partent en split, encadrées là comme ça, quoi. Cette espèce
d'image. Mais alors ce montage là, franchement, il est pas mal, mais abusé.
Abusé un peu, mais enfin bon.
Abusé parce que ça apparaît toutes les 5 minutes. Hein.
Ouais, non, mais bon, ça fait plaisir de voir que bon, bah même dans la télé française, ils ont pigé que de temps en temps.
Il faut relancer.
De temps en temps, le style, ça fait des fois pour beaucoup, hein, la griffe, le petit truc particulier qui fait qu'on reconnaît une série par rapport à une autre, hein, que c'est pas une énième déclinaison, hein, de toujours le même thème ou plus ou moins de toujours le même thème. Alors sinon,
ça s'appelle un jingle, hein, de toute façon, c'est ce qu'on utilise. Pour relancer justement l'émission qu'on fait, nous.
Voilà, c'est pour garder un petit peu le rythme et tout ça. Voilà. C'est une virgule, enfin bon. Et bon, alors je sais pas si t'as remarqué, quoi, mais enfin bon, un petit peu, moi il y a un truc que j'ai plus ou moins remarqué, et, c'est à propos des analyses en laboratoire. Alors, t'as vu là, bon, ils y vont et tout, hop, alors que le valise et tout. Alors c'est vachement dingue parce que bon, tu remarques quand ils arrivent lors du premier épisode, ils arrivent sur la scène du crime, c'est-à-dire autour d'une piscine. Découverte hein, à l'arrière d'une grosse villa, il y a plein de monde, il y a des gendarmes, il y a des flics qui se baladent de droite à gauche et tout. Putain, un cadavre étendu au bord de la piscine en maillot de bain et les mecs arrêtez zone contaminée c'est bon, touchez plus à rien, dégagez et tout, laissez faire la police scientifique et tout. Et quand le mec arrive au labo après un petit peu plus tard il décide d'analyser un ADN je sais pas quoi et tout, le mec tranquille arrive et tout, sort les gants
ah oui, le nombre d'erreurs était assez effarant,
les cheveux à l'air libre tranquille tout, peinard, et, alors que sur la scène du crime et tout, attends faut pas qu'il y ait un cheveu qui soit dérangé et tout. Enfin bon, bah, ok. Hein,
ou encore, je désamorce une bombe avec mon baladeur sur les oreilles. Mais ouais, bien sûr
pas mal, hein, pas mal.
Il y avait d'autres erreurs. Il y en avait une qui était assez flagrante. Il y avait une histoire d'un chemisier avec un bouton qui manquait. Et manque de bol, quand on revoit la scène en complet, le bouton ne tombe pas et on les voit tous. Alors, vous me direz, ouais, mais bon, ça va, c'est que les boutons, on les verrait pas. Sauf qu'à cause des reflets des lights, c'est vraiment des lights, c'est un éclairage qui est très dur. C'est pas un éclairage qui est étudié comme dans l'original, ou même les séries sur la 2, les séries policières, elles ont un éclairage qui est très 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 bien calibré. Là non, c'est un éclairage dur, et du coup, je t'en fous plein la face. Donc résultat, les boutons, bah ils brillent, on voit que... Dommage. Il y a aussi au bout d'un moment une histoire d'incendie dans un bar. Alors soi-disant les pompiers, ils ont mis toute la nuit depuis 2h du matin pour essayer de l'éteindre, ils ont que fini, il n'y a pas un pet de fumée. Alors la location d'une machine à fumer, ça coûte 120 €.
Ouais, là il y avait
c'est des économies
on
de toute ficelle.
Quand la c'est une blague hein, je crois elle rentre. Oui. Ouais, c'est la fliquette oui. Hein, qui rentre et puis bon, il y a quelques petites flamèches comme ça, c'est tout. L'incendie
alors bon, on voit que le décor est vraiment très maigre à cause de ça. C'est dommage. Ce qui fait justement les experts, c'est l'éclairage. Hein. Les trois séries des experts ont chacune leur patte sur leur éclairage très particulière. Les néons, le soleil, pas mal filmé d'ailleurs avec des filtres solaires.
L'utilisation des filtres, des trucs comme ça. Quoi. Bon, c'est pas les mêmes moyens, on va dire. Hein. C'est peut-être pas forcément. La même envie, on va dire. Par contre, moi, ce que j'ai trouvé relativement...
C'est pas une question de moyens. Moi, je pense que c'est vraiment une faute, une erreur flagrante de ce côté-là. C'est France 2 y arrive de leur côté avec leur série. Hein.
Ouais, c'est vrai, mais enfin bon, qu'est-ce que tu veux. Ils ont pas José Dayan à la réalisation, peut-être.
Non. Les séries policières, il y a souvent des petits effets de fumée, d'ombre. C'est un bête coup de machine à fumer. Hop, passé, et voilà, ça suffit.
Enfin, ce n'est qu'un détail quand même.
Ce n'est qu'un détail.
Hein, d'accord. Par contre, moi, ce que j'ai trouvé pas mal, assez intéressant, hein, c'est que c'est quand même assez rythmé. Ça, c'est, il faut leur laisser quand même. Hein, c'est nettement moins, on va dire, lénifiant et soporifique hein, que nos traditionnels Navarro et Juliesco, quoi. Ça, c'est clair.
Là-dessus,
ça
ouais.
Va un peu plus vite, hein, y a pas de problème, hein, c'est bien. L'introduction des différentes composantes ethniques de notre société.
Oh mon dieu, une nouveauté.
Avec un beurre qui s'appelle Stéphane Metzger de son vrai nom, c'est quand même pas mal. Il y a de l'idée, hein, il faut reconnaître quand même. Et Pierre Lourageau, là, dans un personnage de mec un peu bougon, là, c'est le mec un petit peu dégarni, là, tu sais.
Oui, dégarni, et que l'on là, a vu auparavant
qui
sur
est
la
prof, l'ex-prof du patron, ouais, et tout, quoi. Et qui a un personnage qui peut peut-être être développé et qui est assez intéressant. Il faut quand même reconnaître qu'il y a des aspects positifs à cette série qui est donc reconduite. Hein, il n'y a pas de problème. Hein, il y a toute une saison qui a déjà été tournée sur TF1. C'est jeudi prochain à 20h50, deux nouveaux épisodes. Et ce qui est aussi assez intéressant et qui est aussi assez nouveau, hein, parce que justement, c'est dû un petit peu à ce format à l'américaine entre guillemets de 52 minutes hein, par épisode, c'est l'introduction de plusieurs histoires à résoudre dans un même épisode. Ça, c'est pas nouveau hein, dans toutes les séries américaines, au moins il y a ça, séries policières s'entend, mais c'est également une histoire
le
un petit peu
conducteur.
Plus complexe qui va se dérouler au fur et à mesure de plusieurs épisodes, et ça c'est intéressant, c'est assez nouveau quand même, parce que ça va plonger les téléspectateurs de TF1 d'un espèce de feuilleton, hein. Alors on va voir si feuilleton un petit peu diffus, hein, parce que bon bah ok, hein,
ça vient du concept italien qui a été racheté, parce qu'en fait justement c'est l'adaptation d'une série italienne où justement il y a donc un fil conducteur autour d'un tueur, donc voilà, qui fait toute l'histoire.
Voilà.
On va peut-être arrêter le concours
de... Pourquoi la radio, elle a pété, quoi? Tu vois, c'est ça, hein, c'est ça le truc. Hein. Pourquoi la radio, elle a pété, hein?
À mon avis, ils ont dû écouter Sportaz pendant Stade Toulousain, les Wasps.
Non, de toute façon, vu le type de radio que c'était, je crois qu'on ne pouvait pas capter la FM dessus. Hein.
Oui, c'est vrai.
Voilà, ça c'est pour RIS, donc alors c'est jeudi prochain sur TF1, de nouveaux épisodes, j'en dirai pas plus. Sinon, dans le domaine des petites choses, alors tu vois, tout ce que j'ai tient sur une page, tu vois, c'est assez rare quand même pour
ça va être rapide, hein. Dans 3 minutes on déborde.
Pas forcément, hein, parce que bon, bah, il n'y a vraiment pas de nouveautés, hein. Il y a, on va dire, des reliefs, des nouvelles saisons, mais pas vraiment franchement de l'inédit. Au niveau des retransmissions concernant la télé, et là il s'agit de la télé mariée avec le cinéma, et c'est assez appréciable parce que bon bah c'est un des rendez-vous qui est sympathique par rapport en opposition, on va dire, aux deux mondes outre-Atlantique scindés, le cinéma et la télévision, par le biais de leur cérémonie de récompense, c'est-à-dire les Oscars et les Emmy. Là c'est les Golden Globes qui mélangent, on va dire, enfin qui mélangent pas, mais enfin qui ont des catégories pour le cinéma et pour la télé, donc c'est un petit peu plus œcuménique, et puis bon, les acteurs de télé côtoient les acteurs et les producteurs de cinéma. Allez, t'as pas une place dans le prochain film et tout, alors, regarde, je suis dans telle série,
ou encore les réalisateurs qui se retrouvent, ah tiens, bah non, tu fais de la télé, bah oui, il faut vivre.
Tout ça, c'est les Golden Globes, donc qui est en même temps un indicateur pour le cinéma, parce que ça précède les Oscars d'un mois ou de deux mois, je crois, il me semble. Hein. Les Oscars, c'est
fin février. Longtemps, hein.
fin février, tu vois, donc un mois et demi donc avant, donc c'est déjà un petit peu tendance. Et puis c'est également des fois la confirmation des précédents Emmy en ce qui concerne la télé. C'est les Golden Globes, donc qui sont diffusés lundi soir à 2h, à partir de 2h du mat. Bah ouais, en direct. Par contre, c'est sur Paris Première, présenté par un mec dont j'ai même pas noté le nom parce que c'est pas intéressant, et par la petite sœur de Vincent, Cécile ou Céline Cassel. Donc les Golden Globes. Alors avec pour la série télé, pour le côté télé, on va dire, hein, des gros favoris, ceux qu'on a cités lors des Emmy, à savoir Desperate Housewives, Lost. Des nouveautés que nous on va voir sur nos chaînes françaises d'ici on va dire d'ici juin.
Le nombre de nominations d'ailleurs des séries produites par les grands réseaux hertziens américains est d'ailleurs assez étonnant, parce que pendant très longtemps ça a été trusté par Showtime et par HBO, et là c'est vraiment le retour des chaînes comme seul absent d'ailleurs CBS dans les nominations, ce que j'ai vu.
Attends, peut-être pas, parce que je crois que Grey's Anatomy justement est une nouveauté CBS, hein, qui cartonne pas mal. Il y a également le Boston Legal, hein, qu'on verra peut-être, et qui cartonne pas mal outre-Atlantique, et bien entendu bon, les gros favoris que je viens de citer, Desperate Housewives et Lost, dont on verra la saison 2 ici en France, et ben pas cet été. Pourquoi pas cet été? Tu ne poses pas la question, mais pourquoi pas cet été? Pourquoi
Concours de stack haché?
Mais ouais, exactement, la Coupe du Monde cet été, hein, sur TF1, donc, hein, qui viendra impléter une partie des vacances de juillet.
Mince, je savais que j'avais oublié un jingle spécial pas possible. Coupe du Monde.
Et pour les accros et les gros fans de Lost, c'est la bonne nouvelle quand même, parce que la série sera diffusée un peu plus tôt, donc au printemps, on aura la saison 2 de Lost. À propos de Lost encore, je voulais revenir sur le Lost allemand, hein, dont on avait pu voir le premier épisode au screenings, et je voudrais lancer un appel aux producteurs et aux producteurs de Série Club, donc pour diffuser enfin cette série absolument magnifique. Alors tu t'imagines un Lost à l'allemande, hein, un avion de touristes allemands, de touristes allemands, ou de gens qui sont
conduits par le clown, c'est ça?
Ouais, mais pour aller passer le réveillon de la Saint-Sylvestre, parce que ça se passe le jour de 31 décembre, je sais pas, sur les îles, et qui donc se retrouvent
projeté dans l'eau, hein, l'avion qui tombe dans l'eau, d'accord. Alors déjà avant de rallier la rive, déjà gros suspense. un mec tue son frangin sur un truc de sauvetage et tout devant les yeux d'une de sa nana. Quand ils arrivent sur l'île, c'est pas triste du tout, hein, parce que bon bah on voit un petit peu les personnages archétypes de la société allemande, européenne en général. Mais la particularité, c'est que il y en a dès qu'ils ont un moment, hop, ça va tirer dans les coins, tranquille. Donc c'est pour cette raison-là et pour quelques autres, hein, les décors absolument excellents, hein, vraiment tu vois les fonds bleus avec vraiment les découpages, plages du mer du Nord, enfin des trucs, c'est vraiment génial, c'est la déco avec des palmiers en plastique, des trucs que tu crois pas mais ça existe encore, c'est à voir, donc hein, c'est à voir, hein, donc il faudrait quand même qu'ils essaient de la diffuser, donc cette espèce de
peut-être Lost sur comédie,
je me rappelle pas, non, parce qu'attends, c'est quand même assez rentre dedans, genre réservé à un public averti, moins 10 c'est conseillé quand même, quoi, tu vois, ça chauffe quand même pas mal, ça vaudrait le coup quand même, hein. Tant pis, bon, j'ai lancé mon appel. Alors sinon, il y a du côté des bonnes séries, bon, la bonne surprise, ça a quand même été Epitaphios, hein, sur Canal Jimmy, hein, cette nouvelle série argentine, hein, l'histoire d'un tueur en série. Bon, l'histoire est connue, reconnue, et bon, à la limite, bon, bah, les gens vont se... Il peut y avoir le risque que les gens se disent ouais, encore une histoire de tueur en série, Machiavelli qui sait tout, qui contrôle tout, qui emmerde le monde, et puis bon, des plans gore, des trucs comme ça. C'est un petit peu moins le cas dans Epitaphios, on va dire, bien qu'il y ait quand même des effets bien saignants, hein, faut le reconnaître. Mais on peut dire que l'intrigue, pour l'instant, ben, elle est pas mal, elle est bien foutue, et surtout servie magnifiquement par des acteurs, ouais, hein, qui jouent vraiment très très bien. Là, c'est un plaisir quand même, hein, et on voit que bah du côté de l'Argentine et du côté de l'Amérique du Sud, bah il y a quand même des mecs qui savent tenir une caméra, hein, qui savent monter des séquences. Ça fait plaisir à voir, hein. Donc Epitaphios, c'est sur Canal Jimmy. C'est demain soir à partir de 20h45 et je vous reparle de Regenesis diffusé sur 13e rue le mercredi à 20h50. Pourquoi ? Parce que là ils sont vraiment dans la merde, hein. Dernier épisode, on va dire que la fièvre mutée de Marbourg, fièvre hémorragique, a muté justement, et puis bon, en fait David Sandstrom il vient de se faire renverser par une bagnole et bon, il y a pratiquement plus personne, hein. Et là Denver commence à être vraiment sérieusement contaminé, il y a déjà eu pas mal de morts, 200 morts au Mexique, une trentaine de morts à Denver, bon, c'est vraiment pas cool du tout. Alors donc rendez-vous, ben, c'est la semaine prochaine, mercredi, dans Regenesis, cette excellente série, hein. Bon, c'est vraiment excellent, hein. Vraiment, c'est à voir, c'est vraiment très très rigolo, hein. Il y a du second degré, hein, quand même, il faut pas tout prendre pour argent comptant, mais c'est vraiment très très bien fait, avec un premier épisode où on voit le cerveau de la bande, hein, le microbiologiste qui était parti, qui avait été embauché par une grande firme de cosmétiques, mais enfin bon, il était sous-employé comme d'habitude, donc il s'est fait ramener par David Sandstrom dans ce laboratoire de Norbach, et en fait son seul ami, lui qui n'a jamais connu de femme, son seul ami, c'est un magnifique chien, et ce chien, eh bien, il attrape une maladie incurable et tout, et carrément, tu le vois, il rentre dans son labo et tout, et puis il commence à faire des super recherches et tout, quoi, pour essayer de sauver son chien qui est atteint de tumeurs cancéreuses et tout, qu'on n'a jamais étudié, parce que bon, bah, on a déjà du mal à soigner les humains qui ont des tumeurs cancéreuses, alors tu parles que les animaux, ouais, n'ont pas encore s'en occuper.
Un chien, on abrège des souffrances.
Et tout, quoi. Et tu vois carrément, et là, bon, c'est assez osé quand même, hein, tu vois carrément le mec à la fin qui fait la piqûre d'euthanasie à son chien, hein, pour ok, ciao, et tout, c'est la séquence émotion et tout. Mais bon, ok, avec les images quand même, hein, c'est vraiment très très bien, hein, René Genesis. Donc, c'est sur 13e rue, les mercredis soirs à 20h50. Sinon, qu'est-ce qu'on a du nouveau, donc du nouveau, on va dire, avec un nouveau Boulevard du Palais. Tu parlais des séries françaises sur la 2, eh ben voilà, vendredi prochain, Boulevard du Palais, nouvelle saison, c'est du 2005, avec Jean-François Saint-Balmer dans le rôle du flic et Anne Richard dans le rôle de la juge d'instruction. C'est pas mal, hein, c'est assez plaisant à regarder. Enfin, disons, le début de la série était vraiment très très intéressant. Le personnage de Balmer était bien torturé, assez trouble. Bon, il s'est assagi un petit peu avec le temps, hein, parce que bon, bah, il faut que l'audience un petit peu s'assagisse aussi.
Mais c'était pas mal justement le côté du flic qui a des relations très proches avec la justice, puisqu'il est en contact direct avec le procureur et ce genre de choses. Mais il est complètement mais déchiré par moments, ouais. Alcoolo au possible.
Ouais.
Bien, franchement j'aime bien.
Ouais, Destroy quoi, Destroy pas mal quoi. Sinon on a la diffusion sur 13ème rue encore, eh bien d'une série qu'on connaît parce que on avait déjà eu une diffusion mais alors quasi épisodique, hein. On va dire que les chaînes nationales France, le réseau France Télévisions en particulier, c'était sur France 3 qu'on avait pu voir quelques épisodes, et encore diffusé très tard le soir, hein, aux alentours de 22h, 23h le soir, Inspecteur Associé, ou une série britannique excellente,
ouais,
excellente
ouais.
Série britannique, hein, qui s'appelle Dalziel and Pascoe, en tu version originale.
Tu me ferais pas une alerte BBC là
Exactement, avec dans le rôle de l'inspecteur taciturne, légèrement, enfin qui aime bien boire, et qui est un vieux de la vieille, qui a été élevé à la vieille école, Warren Clark, hein, une grosse gueule du cinéma anglais et de la télé anglaise, et Pascoe, donc qui est interprété par Colin Buchanan. Alors lui c'est le flic deuxième génération, doctorat en psychologie sociale, tu vois, enfin qui a fait des études de droit et tout le truc, enfin bon, deux caractères complètement opposés, et qui s'amuse à résoudre des enquêtes dans le monde trouble de l'Angleterre d'aujourd'hui. Alors ce qui est intéressant, c'est que 13ème rue vous propose une diffusion quotidienne, donc mais comme il s'agit de téléfilms qui sont relativement longs, hein, des 1h30, 1h40 on va dire, c'est pas mal parce que c'est diffusé toujours à la même heure. Bon, pour ceux qui bossent, c'est doigt dans le cul profond, quoi, parce que bon, c'est à partir de, on va dire, entre 13h30 et 13h50 du lundi au vendredi. Lundi donc à 13h, et en plus l'horaire n'est pas du tout le même, hein. Lundi 13h40 c'est le téléfilm qui s'appelle Sortie de secours. Mardi à 13h50 des douceurs assassines. Mercredi à 13h30 une passion dévorante. Jeudi à 13h45 le secret de la mine, et j'ai oublié de noter l'épisode du vendredi, mais enfin bon, vous voyez que l'horaire est un petit peu variable, mais c'est toujours aux alentours de 13h30, 14h. Sinon, il y a une bonne série, enfin que moi personnellement je peux pas voir, mais enfin moi j'avais déjà vu un film de la série des Tremors, mais qui est diffusé sur Sci-Fi tous les lundis avec des rediffs, je sais pas quand. Mais bon, il faut savoir que bon, pour les gens qui connaissent un petit peu Tremors, qui ont déjà vu l'un des quatre de la série, où les graboïdes et les vers qui sont dans sous le sable et tout, mais qui sont un petit peu méchants quand ils en ont marre, ils bouffent les gens. Enfin bon, c'est un petit peu trash, on va dire quand même. Enfin bon, pas tous, mais enfin le premier il est bien quoi. Là il s'agit de la série, alors c'est un autre ton qui est adopté, le ton satirique comédique comique, voilà, avec l'idée que eh bien on a créé un parc naturel où les graboïdes peuvent s'ébattre tranquille, et il y a les gens qui viennent leur enfiler du popcorn, enfin bon, comme dans tous les parcs naturels,
on peut pas y organiser un match de foot de temps à autre,
et donc bah il y en a d'autres qui sont pas contents, hein, du parc naturel, qui essaient de les emmerder parce qu'ils sont pas, ils aiment pas les graboïdes de toute façon, mais bon, ok, tant pis pour eux, avec entre autres Christopher Lloyd et Michael Gross, donc dans cette série Tremors qui est diffusée sur Sci-Fi tous les lundis à partir de 20h50, deux épisodes. Et Canal Jimmy vous propose à partir de mardi prochain 20h45 la deuxième saison du Messager des Ténèbres, 13 épisodes donc pour cette deuxième saison. Messager des Ténèbres, je te rafraîchis un petit peu la mémoire, c'est l'histoire Morgan Pym, hein, ce moine du 14e siècle qui fait un pacte avec le diable, comme quoi il peut continuer à vivre, je sais pas quoi, il peut rester immortel, mais comme contrat après, il doit essayer de ramener les âmes au diable. Le diable lui fait un petit deal en lui disant je te laisse 48 heures pour essayer de les sauver, sinon ils partent avec moi définitivement. Pitch qui est assez intéressant et tout. La série est bien, ça se laisse tout à fait regarder. C'est une série canadienne, hein, donc qui s'appelle Le Messager des Ténèbres. C'est tous les mardis sur Canal. Moi, je regarde pas personnellement. Alors bon, je vais pas trop en dire. Hein, mais enfin bon, il paraît que c'est pas mal quand même. Par contre, là, c'est quand même été une bonne claque dans la gueule. Samedi dernier sur France 4 aux alentours de 22h30, 22h40 avec cette série inédite dont je t'ai parlé. Samedi dernier, Charlie Jade avec Jeffrey Pierce, entre autres dans le rôle titre, hein, de Charlie Jade. Alors qu'est-ce qui se passe dans Charlie Jade? Il a une particularité, il a la possibilité de pouvoir se balader dans des mondes parallèles. Hein,
Oui, le possible, ce que ça aurait pu être, et le catastrophique.
Ouais. Alors bon, le truc, hein, c'est que la série dès les premiers épisodes, c'est assez glauque comme ambiance, on va dire, hein. C'est un espèce de, on va dire, futur immédiat, mais un petit peu apocalyptique et bien tyrannique, hein, de toute façon, avec l'histoire d'une société qui contrôlerait pas mal de choses, hein, on ne sait pas encore trop quoi. L'histoire de Charlie Jade, au départ, hein, c'est de retrouver des personnes disparues, c'est ça son boulot, hein. Il n'est pas de détective, je t'embauche pour suivre ma famille. Non, il est chargé de retrouver des personnes disparues, point à la ligne. Il a certains, c'est d'un futur immédiat, parce que au niveau technologique, eh ben, les instruments présentés et la technologie en général, et bon, ben, on connaît pas encore ça tout à fait, hein, on va dire, hein, donc il y a une part de science-fiction quand même, et Charlie Jade, donc à la suite de quelques événements dont un attentat terroriste, mais qui se passe pas forcément dans le monde dans lequel il enquête, hein, qui se passe dans un autre monde parallèle, un attentat terroriste qui menace de détruire justement un des piliers de cette organisation qui chapeaute un petit peu tout ce qui se passe, hein. Il y a des histoires de réfugiés, on sait que bon bah des gens sont partis, on sait pas encore pourquoi ils sont partis de chez eux et ils sont réfugiés, bon bah c'est assez glauque quand même comme ambiance. Ça a été tourné conjointement au Canada, surtout je pense pour les scènes d'intérieur et scènes de,
et pour les questions de budget
de studio, voilà, c'est ça, et en extérieur en Afrique du Sud à Cape Town, et ils sont servis un petit peu de l'architecture un petit peu spéciale, hein. Ils ont trouvé des angles de vue, des trucs assez terribles, hein, avec bon ben toujours filmé avec des filtres très très gris, très bleuté, hein. On a toujours l'impression d'être dans une semi-pénombre même quand le soleil brille à fond les manettes, enfin bon, c'est assez spécial comme ambiance, hein. Et ça vraiment c'est une série à suivre. Bon, ben, il faut savoir si ça continue dans cet esprit-là, ou parce que bon, c'est le genre de scénario qui peut très bien capoter d'un seul coup comme ça, quoi, retomber, tu sais, quoi, comme une merde, parce que ben ok, quoi, il y a une couille à un moment donné, mais ça vaut le coup pour l'instant, hein. Donc Charlie Jade, c'est tous les samedis à 22h20 sur France 4. Et j'en terminerai avec cette rubrique télé en vous disant que ce week-end, et ça a commencé depuis ce matin, mais ça, si vous êtes un trekkie acharné, vous le savez, c'est sur Sci-Fi.
Ah punaise, l'andouille.
Allez, l'andouille. Vas-y, sur Sci-Fi tout le week-end, c'est spécial. Spécial quoi? Spécial quoi? Spécial quoi? Je vous le donne en mille. Allez, et c'est...
Non mais le c'est temps que je le cale, le temps que je le cale, tu sais. Attends. Ah, ouais, punaise. C'est,
presque. J'aurais dû emmener le disque, hein, quand même, hein. Tu vois, là,
bah,
là
non mais attends, si tu me préviens pas avant, hein.
Et oui.
Obligé. Attends, il y a la voix dessus, Space. Je crois.
Final Frontier. Et alors, écoute bien.
These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.
Alors, to boldly go where no man has ever gone. En fait, est une expression qui grammaticalement était incorrecte, hein, qui avait été un petit peu détournée, on va dire, mais qui ne figure pas dans la grammaire traditionnelle, qui a été introduite il n'y a pas si longtemps que ça, parce que c'est une des phrases que tous les Américains, tout le monde pratiquement connaît, to boldly go, to where. Le... Et donc, cette tournure grammaticale qui au départ était un petit peu incorrecte, hein, mais bon, bah, qui
non, c'est un peu vieil
volontairement,
anglais.
Volontairement, ouais, c'est ça qui avait.
C'est vieil anglais.
C'est
hein.
Ça qui a été volontairement introduite pour faire ce générique, bah, ça a quand même fini par être admise, on va dire, comme étant correcte.
Ouais, l'anglais, alors, c'est une langue beaucoup plus souple, hein, que le français. Ouais. Il n'y a pas l'équivalent
Star Trek, c'est sur Sci-Fi tout ce week-end. Ça a commencé depuis ce matin. Et à partir de cet après-midi, donc 13h55, presque 14h, jusqu'à 20h20. Alors, hein, ah là, Star Trek, la série originale saison 1. Avec ça fait 7 ou 8 épisodes, hein, c'est pas mal, hein, toute l'après-midi, hein, que du Star Trek, hein, en version masterisée, la possibilité de voir en version française ou en version originale sous-titrée.
Bien, enfin.
Et une soirée cinéma avec à 20h50 Star Trek le film, c'est-à-dire l'original de Robert Wise de 79. Et suivi à 23h10 du Star Trek 2, La colère de Khan, qui il est pas mal, hein, vraiment il est pas mal avec Ricardo Montalban. Et demain ça recommence dès 7h50 le matin, 8h10
ah ouais, quand même
du matin jusqu'à 14h10 Hein, ça fait quand même 6 heures de Star Trek à nouveau, la série originelle. Hein,
ça vous laisse le temps de 20h à 7h du matin de
William
vous repasser
Shatner,
quelques films. Hein.
Leonard Nimoy, De Forest Kelly, tous ceux qui sont plus là, genre Takei. Takei, il est toujours vivant. Hein. Et jusqu'à 14h10, donc demain, et 14h10, eh ben, place à la série qu'a imaginée et qu'a écrite un certain Captain Kirk, à Kirk, l'original, à savoir William Shatner. Tech War, qui au départ c'était une série de bouquins hein, qui était également dans le monde de la science-fiction, mais enfin plutôt côté flic de la science-fiction, hein, parce que je crois qu'il y a une histoire, surtout une histoire de brigade de police et de trucs comme ça, hein, dans Tech War, écrite par William Shatner. Et donc demain sur Sci-Fi, on vous propose pratiquement l'intégrale de tous les Tech War, qui sont des téléfilms qui ont été diffusés sur les télés américaines, dont Sci-Fi bien entendu. Demain à 14h10, Tech War l'original. À 15h45, Tech War 2. Tech Lords, réalisé par William Shatner, hein, tourné en 93. En 94, et c'est diffusé à 17h15, Tech War Tech Lab. Hein, et ça termine à 18h45 par Tech War Tech Justice. C'est pas du bon ça, tout ça c'est sur Sci-Fi. Demain à partir de 14h10 pour la série des Tech War, 4 Tech War de suite, hein, on est content. Hein. Et ça s'achève là d'ailleurs, hein, c'est bizarre, je n'ai pas décidé d'attribuer également la soirée de dimanche à Star Trek, hein, je sais pas, en diffusant peut-être des trucs, Free Enterprise, des parodies, tu vois, genre pas mal quoi. Mais bon, non, on retombe dans le truc classique avec Battlestar Galactica du dimanche soir. Enfin, on n'est pas perdant quoi, mais enfin bon.
C'est la nouvelle saison.
Dommage. Un petit peu dommage. Hein,
C'est la nouvelle saison, c'est ça? De Battlestar Ouais, quand même, attends, mince. C'est quand même le truc qui a été relancé justement grâce à la production de du film Star Trek, si je dis une bêtise.
Il faut dire qu'en même temps, pratiquement le dimanche soir, enfin un petit peu tard, hein, juste après Philtafios, eh bien, on a également les épisodes de la nouvelle saison de Star Trek Enterprise, la saison 4,
Yubla,
en version originale.
Tant mieux. Et du sport va donc passer de l'autre côté. Thomas est déjà parti. Donc il m'en reste plus qu'à lever le gant. C'était Xavier avec vous pour Supplément Week-end, le magazine BD, cinéma, télévision, le petit supplément papier de Radio FMR du samedi midi. Et les programmes magazine continuent sur Radio FMR avec Ça c'est du sport. Tu es en train de se placer. Non, ça y est, tu peux retirer ton truc. Attends. Tu cliques là. Hop, voilà. Et tu peux l'enlever. Petite explication technique, vous voyez, non, je vous rassure, hein, rien que du très légal. C'était Supplément Week-end, donc spécial, et ben, Stade Toulousain, Wasp, non, pardon, je déconne. Ceci dit, donc, vous pouvez retrouver l'émission en différé sur le site internet de la radio, www.radio-fmr.net. Juste une chose, on a un peu de retard, on n'a pas encore, on mettra pas en ligne avant le festival d'Angoulême pour des raisons techniques, indépendantes de notre volonté. Angoulême, ça commence dans 15 jours. Donc la semaine prochaine, si émission il y a, ce sera une spéciale, et ben, Angoulême, qu'est-ce que ce sera, ce que vous voulez. Voilà, ciao, je vous laisse. Et du sport, et sûrement impatient de brancher son casque. Alors allons-y. Plus!